Donc j'ai été diplômée de l'école du paysage de Versailles, et le diplôme ayant été un peu difficile à avoir, j'ai décidé à la fin de mes études de partir faire un long voyage, et aussi dans une optique de le faire pour une première fois dans ma vie sans avion, et avec assez peu de moyens puisque j'avais travaillé juste 4-5 mois. Et donc, un jour, en revenant dans un même avion, j'ai trouvé une petite carte d'un chemin qui s'appelait la Via Dinarica, dans un magazine Air France. Et dans ce magazine, j'ai déchiré cette petite carte et je l'ai gardée pendant très longtemps dans mon porte-monnaie. Et j'ai décidé, après quelques mois de travail, de partir à l'aventure, toute seule, sans jamais avoir fait de randonnée, traverser les Balkans, de l'Albanie jusqu'en Slovénie.
Bonjour et bienvenue dans Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à ceux qui voyagent. Deux fois par mois, un ou une invitée se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Aujourd'hui, je reçois Megan, qui nous emmène dans les pays des Balkans. Avec elle, on a parlé de dessin, d'ours et de tester ses limites.
C'est Bourlinguer à travers le monde. C'était un peu particulier parce que jamais dans ma vie j'ai vraiment marché. Donc j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très bourlingueurs, disons, et donc qui ont surtout tout le matériel, etc. J'avais eu une première expérience de vélo où j'ai décidé de remonter le Danube à vélo, mais de façon plus conventionnelle, disons, donc c'est quand même plus faisable, il y a une vraie piste cyclable, etc. Et donc j'ai décidé, parce que j'avais du temps libre devant moi, de faire quelque chose qui serait assez long pour que j'aie le temps vraiment de l'apprécier, et aussi le faire de façon un peu différente, parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas trop voyager dans les villes, qu'on passe beaucoup de temps en voiture, etc. Et donc je me suis rendu compte que la randonnée était peut-être le meilleur moyen de le faire. Et donc j'ai aussi, par une attirance pour les Balkans pour lesquels j'ai travaillé, parce que je travaillais en Bulgarie pendant un bon semestre, je me suis dit que l'Europe de l'Est était très peu connue et en même temps m'intriguait assez. Et donc voilà. Un peu sur un coup de tête, je dois avouer. J'ai décidé le 1er janvier de l'année dernière de partir. Un peu pour épater un garçon, je me rappelle, je lui ai dit ça. Donc après, il a fallu que je le fasse. Et donc, je suis partie début juin, tout d'abord avec ma mère. On a passé 15 jours en Croatie, à descendre la Croatie en voiture. On a testé pour la première fois mon sac à dos, que je n'avais jamais mis sur le dos. Des chaussures presque toutes neuves, un GPS pour lequel j'ai eu beaucoup de mal à synchroniser tout ce qu'il y avait dessus. Un tout nouveau réchaud que j'ai eu du mal à manipuler. Enfin, tout ce genre de trucs un peu... J'avais déjà fait beaucoup de camping avec mes parents, mais jamais seule, quoi. J'étais toujours très accompagnée. Et donc, elle m'a déposée complètement au sud de la Croatie. J'ai pris un bus pour aller au Monténégro. Et de cette ville au Monténégro, j'ai pris un autre bus pour aller à Andrejevička, qui est à la frontière albanaise et monténégrienne. Et voilà, j'ai commencé à marcher. Donc, je savais que j'en avais à peu près pour 1200 km. Je savais pas que ça allait être difficile, parce que, comme je n'avais jamais marché... plus de 2-3 jours, je savais pas ce que c'était 1000 mètres de dénivelé. Et je savais pas qu'en face de moi, il y avait 50 000 mètres de dénivelé. Je savais pas ce que c'était la montagne. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens allaient marcher en montagne. Je l'ai vraiment fait sur un coup de tête, en fait. Donc j'ai commencé à marcher. Et je savais très définitivement mon chemin, puisque j'avais un GPS sur lequel il y a le tracé, puisque la Via Dinarica est tracée. Je savais où était le point d'arrivée. Mais je ne connaissais même pas dans ma tête le nom du point d'arrivée. C'est-à-dire que c'était tellement loin que c'était presque... Pour moi, c'était trop loin, quoi. Et donc, pendant longtemps, j'ai dit, je vais en Bosnie. Ben, je vais aller à Knin, en Croatie. Et au fur et à mesure, il a quand même fallu que je me dise, ah ben non, en fait, je vais à Predjama, en Slovénie. Et ça, ça a mis 40 jours à arriver. Donc, c'était un peu ce grand chemin. Donc, je suis restée 12 jours au Monténégro, avec un dénivelé de fou. Je crois qu'en 12 jours, j'ai dû faire 10 000 mètres de dénivelé, ascendant, descendant, et 12 jours de pluie. Avec un village tous les 8 jours et une tente, bien évidemment, puisque j'ai tout fait en tente. J'ai pas fait la Via Dinarica la plus facile, j'ai pas fait la Via Dinarica la plus rapide, j'ai fait la Via Dinarica la plus cheap. Donc je plantais ma tente tous les soirs et je la refaisais tous les matins et je partais. Donc voilà, un village tous les 8 jours, donc ça veut dire qu'il faut avoir dans son sac 8 jours de nourriture, ce qu'on sait pas faire dans le monde réel, puisque j'avais jamais marché. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange pas? J'avais mis dans ma tête un peu des principes, j'avais envie que ça soit pas un voyage introspectif, mais un voyage peu découvert. J'avais envie de me dire, je vais arrêter de boire du thé, du café, je vais essayer de pas manger trop de sucre, bon, n'importe quoi. J'ai mangé des espèces de petits pâtés absolument immondes des Balkans et de la polenta H24. Mais voilà, première partie du Monténégro, je peux pas vraiment vous en parler parce que c'était tellement difficile que mon cerveau l'a oublié.
je vais dire. Je me souviens plus comment c'était. J'ai quelques photos, mais je me souviens très peu de comment c'était. Je me souviens juste que c'est extrêmement rural et où les gens habitent encore dans la ruralité. Ce que je trouvais assez passionnant. Des gens qui vivent sans électricité, sans eau courante. Assez étonnamment, très bien. Et j'ai marché quand même pas mal sur des jolies pistes de 4x4, puisqu'en fait, il y a dans les montagnes, comme ces gens y habitent, et ben on passe sur des pistes qui sont quand même assez faisables. Enfin, voilà. Jusqu'à arriver au pied de... Ah non, il faudra quand même raconter qu'au jour 6, j'avais un GPS, heureusement, de qualité, où je pouvais envoyer des SMS. Et aussi, j'avais des messages préenregistrés. Donc, c'est-à-dire que ma famille me suivait sur ce GPS par une reconnexion Internet. Qui était faite par satellite. Et tous les soirs, j'envoyais à ma mère un petit mot, tout va bien, je dors ici ce soir. Donc ça, c'était quand même aussi pour moi pas mal. Donc au bout de 7 jours, je trouve la première connexion Wi-Fi et j'envoie un petit message par WhatsApp à mes parents. Vidéo un peu horrible, affalée sur la table, trempée de la tête aux pieds en disant c'est terrible en fait. C'est... je sais pas ce que je fous là, c'est terrible. Ma mère, très diplomate, me dit mais tu sais, fais un jour de plus, puis tu verras, un jour encore de plus, tu verras. C'est un peu le voyage d'un jour après un autre, quand même. Donc j'arrive au pied de la seconde ville que je traverse, ou un second village, disons quand même, où il me faut monter au plus haut point du voyage. Donc on est au jour 12, et il faudra que le lendemain, je monte à 2300 mètres. Donc je refais les courses, etc. Je dors dans un camping, il fait super froid. Et le matin, je me lève, et le mec du camping me dit « Vous pouvez pas monter, vous allez, il va y avoir des avalanches, c'est interdit, il y a trop de neige, etc. » Premier coup froid, quoi. J'appelle mon beau-père, qui est connaisseur de la montagne, des Pyrénées, des Alpes, etc. Il me dit, écoute, t'es habillé comme il faut, t'as les chaussures qu'il faut, t'as des bâtons, t'as ce qu'il faut dans ton sac. Si jamais t'as le moindre problème, tu poses ta tente, tu fais un feu et tu attends, quoi. Tout va bien se passer. Je trouve également un garde champêtre, disons, qui était là, un garde montagnard, qui me dit, non, mais vous inquiétez pas, vous m'avez l'air bien habillé, vous avez un GPS, tout va bien se passer. 10h30 du matin, je pars, je me décide. Très très belle journée, sublime journée en fait. Et je monte jusqu'en haut. Et j'arrive en haut des 2330 mètres, des gens qui étaient en basket en haut, quoi. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on moi, on m'a refusé, voilà. Mais là, je me sens un peu légitime d'être en haut, et pour la première fois, je crois, j'arrive en haut de ce truc, et je me dis, pouf, voilà. En fait, on est là pour ça. On est là pour ce petit point de beauté sublime du monde, quoi. On est là pour ça. C'est 30 secondes là. Je commence à descendre un peu difficile jusqu'au refuge, puis je rencontre plein de monde dans le refuge, ça me donne un peu de force, et en plus, ces gens... alors que moi, je trouve que ce que je fais n'est pas si difficile que ça. Ces gens commencent à dire « Ah ouais, quand même, bon, 11 jours, c'est quand même super cool et tout. » Je continue à avancer, je redescends dans un immense lac, je passe la nuit là. Fort de cette expérience, il fallait que je repasse un col à 2100 mètres, je crois, pour arriver tout près de la frontière bosniaque. Et là, mauvaise météo, mais je décide de partir quand même. Parce qu'en fait, il faut avancer. Faut se le dire, hein. C'est difficile quand on marche, il faut avancer parce que sinon, on reste là et c'est difficile de rester là aussi. Parce que ça rajoute du temps au voyage qui est déjà très long. Je décide de le faire, il fait super froid, je peux pas m'arrêter pour manger. J'arrive en haut dans un brouillard, je suis au GPS en fait, c'est terrible. Et là, morale zéro, je fais que tomber, tout ça, terrible. Et j'arrive au bord d'un lac où il était possible que je pose ma tente, je le savais. Et je rencontre trois gardes champêtres du parc national qui m'ouvrent une petite cabane, qui me mettent devant le feu. Qui me voit complètement désorientée, extrêmement fatiguée, et me dépose dans cette cabane, et me dit « tu dors là ce soir ». Ils me servent à manger. Faut-il rajouter que ce jour-là, j'avais plus mangé de sucre depuis genre 2 jours. Plus rien de sucré, quoi. Plus rien de sucré. Ça, c'était extrêmement dur. Ils me donnent une pomme, ils me donnent une côte de porc, je crois. Et voilà. Et le lendemain, ils continuent à pleuvoir, et ils me disent « non, tu dors là aujourd'hui ». Donc je me suis retrouvée passer la journée à la frontière bosniaque avec trois mecs que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui ne parlent ni français ni anglais, mais avec lesquels j'arrive à avoir une conversation tout à fait possible, etc. Et je passe la journée à dormir, en fait. Et je me rends compte aussi de l'épuisement, parce que c'est difficile de le savoir quand est-ce qu'on est énervé, ou quand est-ce qu'on est fatigué, ou quand est-ce qu'on est juste pas dans le bon mood pour le faire. Donc voilà, je passe une journée avec eux, et ça me redonne un peu de force aussi. Ils sont très gentils avec moi, ils sont super sympas, ils jouent aux cartes toute la journée, ils boivent du rakia... Voilà, la vie normale. Et le lendemain, il pleut encore un peu, mais je décide de descendre dans la vallée. Je traverse la frontière, j'arrive en Bosnie, et je décide de ne pas repasser par la seconde montagne que je devais traverser, mais de faire un grand détour de 70 km pour arriver au même point que si j'avais traversé cette montagne. Parce que la météo est vraiment difficile, en fait, et que je me rends compte que c'est pas la bonne solution de vouloir pousser, quoi. Donc je fais ce grand détour par des pistes qui sont plates, et là c'est difficile de se retrouver dans des endroits qui sont pas particulièrement beaux, mais il faut juste avancer. Donc là, je fais des journées à 35 km. Et j'arrive finalement, coûte que coûte, à retrouver le chemin, à me remettre sur le chemin. Encore des moments difficiles de pluie aussi. Voilà. Première partie du voyage. Je pense que c'était une des plus difficiles, mais où je me rends compte que c'était pas si facile que ça de faire ça et que j'aurais peut-être dû me préparer un peu plus. Peut-être. Je continue à avancer. J'avance bien en Bosnie, qui est un pays qui me touche beaucoup parce qu'il y a encore beaucoup d'impact de la guerre, mais où les gens sont vraiment, vraiment très avenants. Je continue dans les montagnes et dans une erreur de mon GPS, je me rends compte que j'ai certains tracés qui n'existent pas sur mon GPS. Heureusement, j'ai mon téléphone portable qui peut aussi servir de GPS et qui fonctionne assez bien. Ce jour-là, très très belle météo, j'arrive dans un lieu qui est absolument incroyable à côté de Lukomir, qui est un petit village bosniaque, etc. Je dors ici face à un coucher de soleil absolument sublime, etc. Et le lendemain, pluie, orage, j'ai pas de GPS et mon téléphone me lâche. Donc voilà, c'est difficile parce que le téléphone est aussi la seule chose qui me relie vraiment à mes parents. J'ai jamais été très proche de mes parents, enfin, disons que j'ai jamais eu une relation fusionnelle, etc. Mais on se rend compte que quand on est entièrement seul, on aime les autres 3 fois plus, 10 fois plus. Et c'est vraiment un besoin presque vital de se dire « je vais faire une petite vidéo avec mes parents ce soir », voilà. Donc j'arrive, heureusement, dans un village où je trouve un camping, où j'arrive en pleurs sur la table du café du camping, disant « mais qu'est-ce que je vais faire, quoi, de ma vie j'ai plus de GPS, il me faut un ordinateur. » Et le monsieur qui tient le café, quoi, qui parle anglais, me dit « mais quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi tu pleures, quoi? Qu'est-ce que t'as ?» Je dis « bah, j'ai besoin d'un ordinateur, sinon je peux pas partir, etc. » Il me dit « mais moi, j'ai un ordinateur. Donc tu vas synchroniser ton GPS, tu vas boire une camomille, tu vas dormir, et demain, tu repars. » Et en fait, c'était exactement ce dont j'avais besoin, c'est qu'à un moment, quelqu'un prenne la décision de ce que j'allais faire. Donc là, on est au jour 17, et pendant 17 jours, j'ai pris toutes les décisions de ma vie, quoi. Ça semble ridicule de dire ma vie, mais à ce moment-là, toute ma vie, c'est ça, quoi. C'est manger, dormir, marcher, quoi. Et trouver de l'eau. Donc cette personne m'a un peu sauvée aussi, et donc je repars. Et j'ai raison de repartir, parce que là, le temps se lève, jusqu'à la fin du voyage, pratiquement. Et c'est absolument... C'est fabuleux. Je rencontre 3 Américains dans un refuge, 3 jeunes Américains avec lesquels je passe 7 jours. Où là, on se repose, quoi. C'est-à-dire que je suis plus la seule à décider de la route. On est 4, donc c'est plus facile pour partager des choses, parler le soir, on plante les tentes, on finit par partager nos tentes parce qu'eux n'ont pas assez de place, etc. Vraiment très agréable. Et ces personnes finissent presque par être ma vie. En 7 jours, on devient 13 amis. Donc eux doivent repartir à la fin de la Bosnie. Ils font que la Via Dinarica en Bosnie. Et donc on se quitte le jour de la demi-finale de la Coupe du Monde, où la Croatie joue contre je ne sais plus quel pays, et la Croatie gagne. Donc là, je suis encore en Bosnie, mais effectivement, tous les Balkans sont en effervescence. C'est quelque chose d'extraordinaire pour eux. Et donc on est aussi dans une ambiance de fête, etc. Et là, je les quitte pour rentrer en Croatie. Donc j'arrive en Croatie, et là, un moment très difficile... Parce que j'avais croisé un autre marcheur français sur la route qui m'avait dit « c'était horrible ce passage-là, c'est que de la route, j'ai décidé de prendre le bus, etc. » Et en plus, je voulais participer à la finale de la Coupe du Monde France-Croatie, alors que je suis pas le foot, mais bon, je suis dans le pays. Je veux rentrer dans un bar, être dans un bar ce soir-là pour... voilà. Et j'arrive pas à aller assez vite. Et j'arrive devant une route qui fait 70 km entièrement droite devant moi, avec la montagne que je dois monter au bout de ces 70 km. Donc là, ça commence à être très très dur, je suis épuisée, j'ai pris un seul jour de pause, en fait, depuis une vingtaine de jours de marche. Et je m'en rends pas compte que je suis fatiguée, en fait. Et surtout, arrive la ville de la moitié de mon périple, où je me suis dit, toujours, si ça va pas, t'arrêtes à Knin, quoi. T'arrêtes à Knin, tu prends un bus, tu rentres. Et là, mon cerveau commence à se dire, ah, on va peut-être rentrer à la maison, quoi. On va peut-être, voilà. Arrive le jour de la finale, j'ai tellement soif, je trouve pas d'eau, et je décide de faire du stop. Et j'en suis un peu déçue moi-même de ce pouce que je lève sur le bord de la route et une dame passe tout de suite et me prend, m'amène dans le village, je regarde la Coupe du Monde, je suis contente, le barman me trouve une chambre d'hôtel, la dame se rend compte en fait que je suis épuisée, elle me donne à manger. Et ma mère me dit absolument, mais prends un jour quoi. Je vois aussi, elle me dit, mais va à Sarajevo, prends un bus, etc. Je refuse de faire ça, je refuse. Je repars à l'envers et je reprends exactement au point où la dame m'a pris en stop. Pour être vraiment déterminée, quoi. Reposée quand même de cette nuit et de cette foule aussi qui est, voilà. Et j'arrive au pied de Dinara, qui est la montagne qui a donné le nom à la Via Dinarica, qui est haute de 1800 mètres, je pense, pas très haute, où j'ai très peur de remonter dessus parce que ça fait 6 jours que je suis sur la route. Et la route, c'est très difficile en marchant parce que ça fait très mal aux genoux, c'est pas intéressant, on est tout seul face à des voitures qui roulent, etc. C'est un peu difficile. Mais bon, je monte sur Dinara et c'est sublime. Bien évidemment, c'est sublime, je remonte dans la montagne, il recommence à faire frais et à faire beau. J'arrive après Dinara dans la ville de Knin et encore une fois, ma mère me dit un conseil, voilà, elle me dit écoute, t'arrêtes pas là, un jour de plus, qu'est-ce que c'est un jour? Essaye, un jour. Je dis à la raison, un jour, puis un autre jour, et j'arrive au pied du Velebit, qui est une grande chaîne de montagnes qui longe la côte en Croatie, et qui est très beau, et une fois qu'on est en haut, effectivement, là j'arrive dans des parcs nationaux, et donc je dors de refuge en refuge tous les soirs, qui sont des refuges qui sont pas gardés, mais qui sont des petites cabanes de montagne. Et effectivement, là c'est les vacances, quoi. Je traverse le Velebit, et arrive le fin du Velebit, et finalement je me dis, allez, encore un peu, quoi. Il reste quoi? Il reste 400 km, qu'est-ce que c'est? Et je finis la Croatie, j'arrive juste avant de passer la frontière slovène à mes 1000 km. Sur mon GPS. Donc 1000 km de marche. Voilà. 50 jours, 1000 km. Et ça marche. Et ça marche. Et ça se déroule. Et il fait beau. Et voilà. Et donc je traverse la frontière slovène. Je monte la dernière montagne. Qui est dure à monter quand même. C'est toujours dur de monter. Qui est dure à descendre aussi. C'est toujours dur de descendre et de monter. Et c'est un peu ici presque la fin du voyage. Il me reste 5-6 jours en Slovénie. 5-6 jours qui sont difficiles parce que la Slovénie est plus habitée, c'est, je trouve, moins joli que tout ce que j'ai traversé avant. La fin du voyage arrive, ça fait une vingtaine de jours que je me suis pas douchée, que j'ai pas dormi dans un lit. Et en Slovénie, tout devient plus facile, je passe presque de village en village, c'est aussi plus difficile pour planter la tente. Voilà, mais je tiens bon et les 3 derniers jours, je me rappelle me lever en me disant, mais 3 jours quoi, 3 jours. Un jour après l'autre, vas-y, lève-toi, fais-le. Et voilà. J'arrive à Predjama, qui est un château, qui est la fin de la chaîne de montagnes des Dinari. Je pue comme jamais, je crois. Et j'ai honte de rentrer dans ce château, mais en même temps, je me dis, t'as fait 1100 km pour arriver là, donc tant pis pour les autres. Et voilà, encore une journée, et j'arrive à Razdroto, cette ville dont je connaissais pas, absolument pas le nom. Et très vite, ce qui est un peu un regret aujourd'hui, le lendemain matin, je prends un bus, j'arrive à Trieste, je passe quelques heures à Trieste, je prends un bus et j'arrive à Lyon. Donc voilà, en 56 jours... J'ai fait tout ça, et voilà.
Merci beaucoup pour cette histoire. Pourquoi tu as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Je pense que j'ai voulu raconter ce voyage parce que je suis européenne dans l'âme, et que on connaît très peu l'histoire des Balkans et des pays de l'Est, et que c'est une histoire qui me touche beaucoup, et que je pense qu'elle mérite totalement de faire partie de l'histoire de l'Europe aujourd'hui. Et aussi parce que c'était un joli voyage.
Ça a été beaucoup de premières fois pour toi, j'ai l'impression. Première fois en solitaire, première fois en randonnée. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi ou sur le voyage ?
Ça m'a appris qu'on peut pas vivre en regardant juste le bout, en fait. Il faut vraiment, il faut le faire un jour après l'autre. Juste en regardant les cartes, moi, je déprimais dans me perdre dans les cartes quand j'étais en voyage. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à savoir le point final. Et à me rendre compte que je connaissais pas le point final parce que il faut des objectifs qui sont atteignables. Et l'objectif qui est atteignable, pour moi, c'était demain, quoi. Demain. Et pas plus. Et je me suis dit ça aussi après en rentrant, du coup, dans la vie de tous les jours, en fait. On peut avoir un objectif lointain qui peut être celui de réaliser quelque chose, mais il fallait réussir à le faire étape par étape. Et c'était un vrai travail. On considère peut-être ça comme des vacances ou juste un loisir, mais pour moi, c'était vraiment un vrai travail. Il faut se lever le matin, il faut marcher pendant 8 heures. Il faut survivre pendant 8 heures. Et donc, ouais, un jour après l'autre.
On va revenir un petit peu dans ce que j'appelle l'avant-voyage. Toi, de manière générale, est-ce que tu as un rituel ou quels sont tes préparatifs ?
Je crois que je ne suis pas le bon exemple pour les préparatifs de voyage parce que je suis un peu dissolue, disons. Donc, je m'intéresse. Effectivement, j'ai regardé les cartes, je les ai mises sur mon GPS, mais je les ai pas bien mises sur mon GPS. J'ai pas regardé exactement dans quel coin exact je passais, ce qui avait été touché par la guerre, par exemple. Je me rappelle, par exemple, on a fait le Danube à vélo il y a quelques mois, et on savait même pas qu'on allait rentrer en Slovaquie, quoi. Donc, je suis pas du tout la bonne personne pour les préparatifs voyage, bien que celui-ci, je l'ai préparé quand même. Enfin, j'ai préparé mon sac, quoi. Mais j'ai même pas fait un test de mon sac. Un peu la honte de dire ça. Mais en tout cas, j'y vais avec de l'entrain, avec une volonté. Et en me disant aussi, et ça, ça c'est familial, je pense, que c'est possible, en fait. Il faut pas se dire que c'est pas possible. C'est possible. Il faut pas avoir peur de le faire. Faut pas en douter.
Moi, ça me fait plaisir de t'enregistrer parce que les Balkans, c'est une région du monde où j'ai été plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Par rapport à son histoire particulière et tout à fait récente au sujet de la guerre et des stigmates qui sont encore visibles. Toi, est-ce que tu t'étais un petit peu renseigné sur ça et quel était ton état d'esprit par rapport à ça ?
Alors oui, forcément, je me suis renseigné sur la guerre et notamment aussi dans les 15 premiers jours que j'ai fait en voiture sur la côte croate, tous les mémoriaux, tous les musées, etc. Mais aussi par rapport à mon travail de paysagiste, j'ai travaillé sur la Bulgarie et donc sur les Balkans, sur toutes les tensions qu'il y avait dans toute cette région-là du monde qui sont un peu qu'on connaît très peu. Mais aussi sur leur histoire un peu plus lointaine. Et les stigmates, c'est vrai que sur place, peu visibles au Monténégro, je veux dire. Très étrange, puisque le Monténégro est un pays depuis 2006. Tellement récent, c'est même une question, c'est un tout jeune pays. Très visible en Bosnie, pour moi. Impact de balles, village détruit. En fait, je veux dire que le Monténégro est encore habité, de façon rurale. Donc je pense que ça a été effacé. Forcément, les gens, là où les gens habitent, la vie reprend son cours. Bosnie, les campagnes ont été désertées, la montagne a été désertée. Donc on croise les panneaux, attention mine, voilà, donc on reste sur le chemin. Croatie également, nombre de villages détruits entièrement, impact de balles. Velebit a été une grande zone de conflit où les rebelles, partie de la population s'est cachée, donc il y a des mines vraiment partout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des refuges pour dormir en fait, pour pas qu'on aille ailleurs. Et puis une population qui en parle. Des Serbes, quand même, de façon très... Avec les trois gardes forestiers, ils en ont parlé très naturellement, quoi. Enfin, avec les quelques mots que je comprends, bombardement serbe, qu'ils étaient dans l'armée avant d'être gardes forestiers. Voilà, un pays encore bien touché, je trouve. Mais qui se relève bien. Enfin, la population, je suis toujours très surprise de comment est-ce que la vie reprend son cours aussi vite, quoi.
Tu m'as dit, du fait de ton métier de paysagiste, tu es amené à dessiner, à faire des croquis. Et tu m'avais raconté que toi, t'étais parti avec des crayons et qu'en fait, tu documentais ton voyage en dessinant. Est-ce que c'est quelque chose que tu as refait après? T'as parlé de photos également. Comment tu racontes tes voyages?
Alors, je suis pas la meilleure photographe. Je me considère pas comme photographe. Je prends des photos, des clichés de vacances, effectivement. Et en fait, j'ai toujours écrit, par contre, pendant les voyages. Donc, un journal. Pas forcément un journal qui soit... poétique, vraiment, c'est genre j'ai fait ça, j'ai mangé ça, etc. Je garde aussi plein de petites choses, des tickets, des choses comme ça. Et j'avais commencé ce premier carnet de voyage, un carnet de voyage, pour un voyage que j'ai fait en Iran, où j'ai voyagé avec mes parents et où mes deux parents aiment bien la photographie, et donc je me suis dit, il faut que je trouve un truc pendant que eux sont en train de photographier pendant 45 minutes. Donc, comme le dessin fait partie de ma formation et que je voulais m'améliorer, tout simplement, donc j'ai commencé à dessiner. Et donc, pour ce voyage-là, j'ai vraiment prévu le dessin à part entière du voyage. Et donc, j'ai effectivement fait un carnet de voyage de 130 pages dessiné, et j'ai écrit tous les jours dans ce même carnet de voyage. De façon très simple, j'avais pris des cours d'aquarelle de carnet de voyage, où j'avais appris en me disant, en fait, faut pas trouver le meilleur lieu du monde, le plus beau, etc. En fait, faut juste poser et le dessiner. Et effectivement, je me suis rendu compte que le dessin était là une des façons pour oublier, en fait, un peu que on était là tout seul. Bien que la solitude m'ait pas pesé, mais parfois... s'évader un peu. Donc effectivement, j'ai tenu un carnet de voyage qui, au bout de 55 jours, je dois avouer, beaucoup mieux qu'au jour 1. L'avantage aussi du carnet de voyage et du dessin, c'est que c'est les gens qui viennent nous voir parce qu'on dessine, et c'est pas nous qui allons plus ou moins nous imposer aux gens. Et donc plein de fois, quand je m'assois, s'il y a un berger qui passe, il va obligatoirement venir voir ce que je dessine. Et j'avais aussi prévu des feuilles volantes, que j'ai dessiné, et j'ai donné des feuilles à des gens. De dessin que je faisais, même si je me considère vraiment pas comme une artiste, mais voilà. Donc le dessin est vraiment une très bonne façon d'entrer en contact avec les gens.
Justement, pour ce parler rencontre, tu parlais des gardes forestiers, tu parlais également des Américains. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement touché pendant ce voyage, une rencontre que tu aurais peut-être pas mentionnée? Et de manière générale, est-ce que tu gardes contact après le voyage avec les gens rencontrés sur place, ou est-ce que tu considères ça comme des rencontres plus éphémères?
Alors, j'ai pas rencontré beaucoup de gens dans ce voyage. J'ai dû rencontrer une dizaine de marcheurs, je pense, en tout. Les trois gardes champêtres, je pense, ont été assez particuliers dans ce voyage. J'ai toujours rencontré des gens au moment où il le fallait. À chaque fois que j'en avais besoin ou que j'étais vraiment... que c'était difficile, j'ai toujours trouvé des gens. Et qui ont été extrêmement avenants. Ce qui est difficile aussi, c'est de tenir la distance. Par exemple, les trois Américains, on a vraiment partagé quelque chose de fort ensemble. Sauf que maintenant, on n'a plus du tout la même vie, donc effectivement, on s'envoie des petits messages, etc. Mais... c'est difficile de garder vraiment en contact. J'ai rencontré également une association de marcheurs croates qui m'ont hébergé pour une nuit dans un refuge auquel ce que j'aime bien par contre faire après les voyages, c'est remercier les gens qui m'ont aidé, parce que en voyage c'est un peu compliqué. Et donc j'ai renvoyé des cartes postales, j'ai envoyé une bouteille de vin par exemple aux trois gardes champêtres, et j'ai envoyé une carte postale à cette association, et j'ai eu une réponse tellement positive. Ils m'ont dit qu'ils avaient été extrêmement touchés de m'avoir rencontré, mais aussi de ce geste. Donc parfois, il faut pas grand-chose. Et je considère aussi mes dessins que j'ai donnés. Par exemple, contre une nuit dans un jardin, j'ai dessiné le portrait d'une dame. Elle m'a demandé de la dessiner, et je lui ai donné ce dessin. Elle m'a demandé de le signer. Et ça avait vraiment l'air très important, donc je marque toujours mon adresse mail derrière. C'est vrai que le contact est difficile à garder quand c'est des choses aussi intenses, parce que c'était un voyage extrêmement intense, et qu'après, ben, on revient dans sa vie classique.
Justement, pour se parler du retour, il avait l'air assez brusque. J'ai l'impression que voilà, t'as fini ton chemin, t'as fini ce que t'avais à faire au final. J'ai l'impression que t'avais limite envie de fuir un petit peu de ce pays et d'entrer très rapidement au pays. Comment tu gères le retour de manière générale? Est-ce que tu ressens une espèce de spleen ou de blues post-retour?
Oui, j'aurais pas dû gérer mon retour comme ça. Et en même temps, quand on le fait en solitaire, c'est difficile de... Ou alors c'est le fait d'être solitaire, ou alors c'est mon caractère à moi. Ne rien faire, c'est pas envisageable pour moi. Une journée sans rien faire aurait pas été envisageable. En plus, j'étais pas dans un lieu extrêmement beau, etc. Donc c'est vrai que je suis rentrée très très vite. Je le referais pas comme ça si je refais un autre voyage. Le retour a été assez rapide. Je me rappelle la nuit du bus où j'ai fait 1200 km en bus en me disant... En 9 heures, j'ai fait tout ce que j'ai fait en 55 jours. Tout va bien, le monde va bien. Donc je suis rentrée très vite. J'ai mis 2 semaines à me remettre physiquement. Faut-il dire que j'ai pris 2 jours uniquement de repos pendant tout le voyage. Donc c'est en fait pas beaucoup, mais c'est après qu'on s'en rend compte. Donc 2 semaines pour pouvoir marcher correctement en fait. Et je pense que j'ai pas eu de blues tout de suite parce que je suis revenue dans une vie où il fallait que je déménage, que j'ai une vie active. C'est après, je pense plus tard, en décembre ou quelque chose comme ça, où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là ? Et en même temps, pas du tout l'envie de repartir. Je veux dire, il y a des fantasmes de voyage, bien sûr, qui sont un peu obligés. Et en même temps, pas du tout l'envie de me remettre dans ce manque de confort, parce que c'est quand même physiquement difficile. Le manque de confort, je pense, c'est le plus dur. 23 jours sans douche, c'est une épreuve. Mais je pense que c'est plus une épreuve mentale, parce qu'en vrai, bon, un jour sans douche ou 23, quand on randonne, je pense que ça change pas grand-chose. Mais c'est mental. Donc le retour à la civilisation était quand même bien apprécié. 55 jours, c'était long. Je sais pas si je remarcherai aussi longtemps ou si je le ferai aussi long, et en même temps peut-être, ou si je le gérerai peut-être différemment, c'est-à-dire m'octroyer plus de pauses ou plus de choses agréables, c'est-à-dire oui, là c'est dur et tant pis, je prends un bus quoi. Ça je l'ai pas fait parce que c'était un challenge et que c'était pour moi pour le faire. Maintenant je l'ai fait une fois, c'est bon, je peux le faire, mais peut-être qu'il faut pas le refaire comme ça.
Tu disais que c'était un challenge de tout faire à pied, notamment que tu voulais pas prendre d'avion. Est-ce que tu es adepte de ce qu'on appelle le slow travel? Est-ce que tu revendiquais ça avec ce voyage ou pas du tout?
En fait, écologiquement parlant, aujourd'hui, je pense que c'est plus vivable. C'est plus vivable non plus de passer un week-end à Barcelone parce que j'ai envie de passer un week-end à Barcelone ou voilà. J'aime habiter à l'étranger, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir habiter dans différents pays. Et donc, passer autant de temps quelque part, c'était aussi une façon d'y habiter en quelque sorte. Enfin, en tout cas, avoir assez de temps pour le faire. Effectivement, je crois qu'il faut qu'on arrête de prendre l'avion. Et en même temps, j'ai été une des personnes qui a pris le plus l'avion. Enfin, je pense que mon taux de kérosène est absolument indéfinissable. Et voilà. Et c'était aussi une façon, oui, de se dire, on peut le faire différemment. Et on prend autant de plaisir à le faire différemment. Donc, jamais slow traveler, mais slow tout court, je pense.
Tu mentionnais un petit peu avant tes fantasmes de voyage. Tu veux aller où?
Alors moi, j'ai une petite particularité sur la Via Dinarica, c'est que je l'ai pas fait tout à fait en entier. Et je me rappelle que mon beau-père m'a dit « tu vas le regretter ». Je dis « oh, ça va, pour 100 km ». Et en fait, si. La Via Dinarica commence en Albanie, mais pour moi, c'était compliqué d'aller en Albanie. Puis c'est un pays qui fait un peu peur, en fait, très étrangement.
Pourquoi?
Non, mais en fait, il faut pas se mentir. Hein. On a peur, en fait. Moi aussi, j'ai eu peur avant de partir. Ça fait peur. Ça fait peur d'aller à l'étranger, ça fait peur d'être seul quelque part dans lequel on connaît pas... le pays, et l'Albanie, ben voilà, il suffit d'ouvrir la première page internet et on tombe sur toutes les mafias albanaises, des choses comme ça. Et on a tous un imaginaire, et moi la première, même si je voyage et que je me dis en fait les gens vivent partout, bougent partout, et peu importe où on est dans le monde, en fait, les gens habitent, donc c'est bon, enfin, on meurt pas. On meurt pas parce qu'on voyage et on meurt pas parce qu'on marche, quoi. Mais voilà, donc l'Albanie, ça me faisait peur. Et donc là, maintenant, j'aimerais bien reprendre un bus jusqu'à Andrzejewiczka. Et mon objectif, ce serait donc d'aller finir, puis également d'aller au Kosovo et la Macédoine. Et dans ma tête, j'aimerais vraiment rejoindre la mer Égée jusqu'à là d'où je viens en France, donc en Dordogne. Mais en plusieurs fois, hein. Une fois jusqu'à la mer Égée, puis une fois la Via Alpina, puis une fois, voilà. Pour relier des choses, je sais pas.
Donc on reste sur des fantasmes de randonnée, de trekking.
Y a autre chose qui me trotte dans la tête, c'est de faire du vélo et la Russie. Voilà, j'aimerais bien suivre le Transsibérien à vélo, je pense. Mais ça, c'est vraiment... J'ai eu des sacoches pour Noël. Voyons voir si elles serviront.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc c'est ton espace à toi. Si tu veux finir par un mot de la fin, un proverbe, une anecdote, une recommandation, c'est à toi.
Si vous croisez un ours, ce qui arrive, de nuit, ça arrive. Mais en fait, n'ayez pas peur parce que les ours, des Balkans sont beaucoup moins terribles que les grizzlies du Canada. Et donc il suffit de claquer des mains et tout le monde s'en va. Courage.
On garde ça en tête. Merci beaucoup.
C'était Bourlingué, le podcast qui donne la parole à ceux qui voyagent. Merci pour votre écoute et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en me donnant des étoiles sur iTunes ou en laissant un gentil commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner via votre application d'écoute préférée. Enfin, vous pouvez nous suivre via Instagram, bourlingué.podcast. Ah, et une dernière chose, la musique que vous entendez là s'appelle « J'ai bourlingué » et elle a été composée par Serge Raphaël. Merci à lui.
C'est vrai que j'ai cherché ailleurs une partie de moi, mon bonheur. J'ai bourlingué.